Radio Kapi. Oh, Kapi.
À la présentation, Nico Kalambay.
À la une ce soir, Félix Tshisekedi estime que ce n'est pas sa présence à Beni qui va mettre fin à l'insécurité et qu'il a déjà pris des mesures pour que cela s'arrête. Il demande par ailleurs aux élèves de Beni qui font le sit-in de regagner leur maison. Le chef de l'État congolais l'a dit ce jeudi dans un point de presse après l'échange qu'il a eu avec le président du Conseil européen, Charles Michel. Au moins 120 voitures et camions sont bloqués depuis deux semaines à Mahagi, au niveau de la frontière, suite à l'insécurité, sur la nationale numéro 27 entre Mahagi et Bounia. Gracien Irachan, élu de Bounia, appelle le peuple à la patience. Une dizaine de militaires et policiers congolais auteurs des violences sexuelles ont été condamnés le week-end dernier par le tribunal militaire garnison de Bukavu. Maître Néné Bintou Iragi, qui est notre invité, a fait partie du collectif des avocats des victimes. Bonsoir et bienvenue à tous. Le président de la République demande aux élèves qui font le sit-in à Beni de regagner leur maison. Félix Tshisekedi a lancé cet appel ce jeudi en conférence de presse après l'échange qu'il a eu avec le président du Conseil européen, Charles Michel. Il estime que ce n'est pas sa présence à Beni qui va mettre fin à cette insécurité et qu'il a déjà pris des mesures pour que cela s'arrête. On écoute le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans ses propos recueillis par Alain Irung.
Je ne suis pas quelqu'un qui parle en l'air, je suis simplement en train de préparer des solutions efficaces qui permettraient de résoudre de manière définitive cette crise de l'Est. À propos de la MONUSCO, là aussi je crois que les jeunes gens sont emportés par les émotions d'une part et je suppose, je pense même qu'il y a quelque part de la manipulation des adultes. La MONUSCO est venue en partenaire en République démocratique du Congo, pour nous aider à éradiquer les violences, à stabiliser le pays et surtout à protéger les populations. Je peux comprendre cette expression de colère, de ras-le-bol vis-à-vis des violences qui se font, mais ce n'est pas la MONUSCO qui en est responsable. Cette violence, elle est aveugle, elle est lâche et elle est sournoise. On ne la voit pas toujours venir. Ce n'est pas la MONUSCO qui la suscite. Et donc vous devez comprendre que la MONUSCO est là pour nous accompagner dans les efforts que nous fournissons. Et je vous promets, chers enfants, en tant que père d'abord, mais ensuite en tant que chef de l'État, que j'apporterai les solutions à vos problèmes. Veuillez regagner vos foyers et ne vous laissez surtout pas manipuler par des adultes qui, eux, ont un but qu'ils recherchent, un but politique à tout cela.
Avec l'avènement du gouvernement Samba-Lukonde Kyenge, l'État congolais va se focaliser pour que des moyens nécessaires soient mobilisés pour la concrétisation de la gratuité de l'enseignement de base sur toute l'étendue de la RDC. Le chef de l'État l'a affirmé ce jeudi devant les médias après son entretien avec Charles Michel, président du Conseil européen, en visite à Kinshasa depuis mercredi. L'Union européenne rassure pour sa part de son accompagnement dans ce secteur. D'autres détails avec vous, Billy Yvan Lutumba.
Répondant à une question sur les difficultés auxquelles fait face la matérialisation de la gratuité de l'enseignement, Félix Tshisekedi a tout d'abord déploré les cas de détournement et la pandémie de Covid qui ont lourdement pesé dans ce secteur. En plus des efforts nationaux, le chef de l'État congolais fonde également son espoir sur les appuis budgétaires extérieurs.
Les moyens mobilisés par l'État congolais ont été détournés. Donc ça veut dire que nous ferons davantage attention à cela. Le partenariat justement avec l'Union européenne, c'est celui d'obtenir des accompagnements, du soutien, des conseils, de l'encadrement, du renforcement de nos capacités pour y faire. Je reste optimiste et nous allons réussir à relever ce défi.
De son côté, Charles Michel, président du Conseil européen, soutient que sur base du partenariat que l'Union européenne entend consolider avec la RDC, l'enseignement des enfants est un secteur capital.
L'éducation est un levier puissant pour le développement, pour le progrès, pour la capacité de relever le défi. Et en cela, nous voulons soutenir l'ambition très forte qui a été exprimée par le président dès son entrée en fonction, dès son entrée en responsabilité. Et on a eu l'occasion dans nos échanges d'aborder de manière plus opérationnelle, plus concrète. De quelle manière, notamment au travers des programmations pour le partenariat entre la RDC et l'Union européenne sur le plan bilatéral.
Le président du Conseil européen souligne par ailleurs que le soutien que l'Union européenne entend apporter doit engendrer des résultats perceptibles et tangibles au profit de la population congolaise.
Huitième jour ce jeudi du sit-in des élèves à la mairie de Béni. Très préoccupé par cette situation, le Parlement d'enfants dans la partie Grand Nord estime que les responsabilités sont partagées afin de porter solution aux revendications des enfants. Point de vue émis ce jeudi après la rencontre entre l'autorité urbaine, le comité des parents ainsi que le Parlement des enfants. Cette structure de défense des droits des enfants, structure plaide donc pour que tout soit fait afin de donner la chance à l'éducation de l'enfant de Béni. Joël Kavouya, coordonnateur du Parlement d'enfants dans la partie Grand Nord de la province du Nord Kivu, est au micro de Marc Maroufimbo.
Nous, étant que Parlement d'enfants, nous lançons des cris d'alarme. Dans 8 jours où un enfant dort à l'extérieur, le cas d'abus se multiplie, c'est-à-dire demain après demain, nous allons voir des grossesses là-bas, des infections là-bas. Nous allons voir des enfants qui sont allergiques à plusieurs intempéries. Voilà pourquoi, à ce sens, je lancerai le message à tous les parents. Nous savons que nous avons traversé des moments difficiles. Alors ne laissons pas nos enfants à la merci de certaines catégories de gens à ce stade actuel. Si nos enfants ont revendiqué l'éducation, laissons peut-être le temps à l'autorité de répondre tant soit peu. Si la paix pourra venir, laissons peut-être cette éducation étant aussi parmi les facteurs de changement d'une nation. Peut-être reprenons les cours parce que nous sommes en train de regretter ce matin lorsque nous avons vu certains enfants chassés de leurs écoles. Est-ce qu'on peut permettre à d'autres enfants qui sont en train de vouloir aller à l'école, de partir à l'école? Parce qu'en dehors de tout ça, il y a d'autres choses qu'on appelle des manquements, qu'on donne chance juste à cette éducation.
La force syndicale nationale FOSINAT, Fédération du Nord Kivu, dénonce la création d'une nouvelle sous-division de l'enseignement primaire, secondaire et technique à Mouesso, territoire de Massissi. Baala Chamavou Innocent, président de ce syndicat des enseignants, se demande pourquoi créer 8 sous-divisions de l'EPST dans un seul territoire, alors que 5 d'entre elles fonctionnent difficilement et ne sont pas payées. Sifa Maguru.
D'après ces syndicalistes, les motifs qui ont poussé à la création de ce nouveau bureau gestionnaire ne sont pas connus alors que ceux qui existaient déjà ont de la peine à fonctionner à cause des irrégularités. Il ajoute que la province éducationnelle Nord Kivu 3, dont émane cette nouvelle sous-division, serait déjà bourrée d'écoles et agents fictifs, un problème qui n'est pas encore résolu.
Nous tenons à lancer un cri d'alarme car ici récemment, on a installé un bureau de la sous-division des Massissi. À Mouesso. Voici maintenant dans le seul territoire de Massissi, il y a 8 sous-divisions et pourtant, de ces sous-divisions, 5 ne sont pas jusque-là encore payées. Tout ça, c'est pour gonfler les effectifs des NI.
Cette nouvelle sous-division a été créée par arrêté ministériel du 1er avril 2021, signé par l'ancien ministre de l'EPST, Willy Bakonga. En outre, ce syndicaliste qui revient d'une mission de toilettage dans les entités éducationnelles du Nord Kivu parle également d'un constat amer.
Nous avons terminé les travaux de toilettage et dans ce travail, nous avons décelé pas mal des agents fictifs. Nous avons décelé des irrégularités.
Cette mission de toilettage a été initiée sur recommandation de l'inspection générale des finances, a-t-il précisé. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Extradé hier de Brazzaville à Kinshasa, Willy Bakonga, ancien ministre de l'EPST, est en train d'être auditionné en ce moment par le parquet général près la cour de cassation. La DGM l'a transféré au parquet cet après-midi et son dossier évolue vite. Les détails avec vous, Jeff Ngoy.
En tant que service de migration, la DGM dispose d'un cadre de transit pour quiconque échapperait notamment à son contrôle, donc un clandestin. Selon la loi qui régit cette direction, elle a des OPJ à compétences restreintes dont la durée de détention ne doit pas dépasser 48 heures. Et Willy Bakonga se trouve dans cette situation. La DGM doit ainsi formaliser cette clandestinité avant de le transférer à la justice. Une fois au parquet, celui-ci poursuivra son instruction préjuridictionnelle qu'il avait déjà entamée avec le conseil du fugitif, puis le présentera à la cour de cassation afin de décider de sa détention préventive. Celle-ci pourra être transformée en une assignation à résidence surveillée, comme ce fut le cas pour l'ancien ministre de la Santé Oli Ilunga. Arrêté à Brazzaville le 20 avril dernier, en fuite pour l'Europe, Bakonga a été acheminé sur base d'une coopération de police de frontières entre les deux pays. Il avait refusé de répondre au mandat de comparution du parquet qui l'accuse de détournement présumé de deniers publics.
Plus ou moins 120 voitures et camions sont bloqués depuis deux semaines à Mahagui au niveau de la frontière suite à l'insécurité sur la nationale numéro 27 entre Mahagui et Bounia. Une situation qui occasionne une pénurie et une hausse de prix du carburant ainsi que des produits vivriers à Bounia. Pour faire face à cette crise qui s'ajoute à la crise sécuritaire, l'élu de Bounia, Gracien Irachian, appelle le peuple à la patience, le temps de mener des démarches pour porter du fruit à cette situation. Il invite par ailleurs la MONUSCO, conjointement avec les FARDC, à assurer la sécurité de ce convoi des marchandises des commerçants. Gracien Irachian est au micro de Michel Kifindangoy.
Nous avons été saisis par notre population en Ituri, non seulement du carburant qui est en pénurie, mais aussi d'autres denrées de première nécessité, ce qui a provoqué une forte crise économique en Ituri. C'est une situation à laquelle nous devons rapidement donner une solution. Et nous avons donc saisi le Premier ministre par écrit. Au besoin, nous allons aussi les rencontrer donc pour qu'il y ait une solution qui soit trouvée le plus tôt possible. Mais déjà, nous avons aussi envisagé des contacts sur terrain. Nous avons travaillé avec les commerçants qui sont sur place, ils nous ont posé leurs conditions, leurs doléances, parce qu'eux, ils veulent ne plus perdre des camions, parce que récemment, en date de 12 avril, ils ont perdu encore des camions qui étaient incendiés, et ils veulent que la route soit sécurisée. Et nous avons aussi travaillé avec l'armée, qui pour aussi nous garantir la sécurité. Si nos troupes, accompagnées de MONUSCO, peuvent convoyer d'abord tous ces camions citernes, je pense que nous sommes en train de réunir toutes les conditions, et bientôt, la RN27 sera réouverte.
Début en principe hier mercredi à l'esplanade de la mairie de Mbandaka du procès en flagrance de 52 bandits et voleurs à main armée. Ils ont été arrêtés par les éléments de patrouille mixte et de l'opération de traque des consommateurs de chanvre, comme liqueurs fortes mais aussi des liqueurs fortes dans la ville. Parmi ces malfrats, deux femmes, l'autorité provinciale qui les a présentées à la population avec des biens volés ainsi que quelques armes et une jeep d'opération se dit prête à transférer les condamnés loin dans les prisons plus sécurisées. Des précisions avec Paul Richard Malengela.
L'arrestation et la présentation de ces 52 voleurs à main armée, a dit le gouverneur Bobo Boloko, a eu lieu grâce aux moyens qu'il a mis à la disposition des services de sécurité. Et il ne ménagera aucun effort afin que la traque continue jusqu'à neutraliser ces hors-la-loi. Ce n'est pas fini, cela ne veut pas dire qu'on a stoppé avec ce groupe. Alors si ton frère est bandit Kuluna, soit il vole chez autrui, dis-lui de cesser, puisque cette opération va continuer durant toute l'année. La population venue nombreuse devant la mairie n'a qu'un seul vœu, celui de voir la condamnation de ces malfrats qui vont aller purger leur peine si loin. La ville va mal à cause d'eux, parce que nous continuons à procréer des enfants. S'ils voient cela, ils vont les imiter. Il faudrait que ces gens partent pour de bon, là nous serons calmes. Qu'ils partent à Boulouo ou à Angenga. Par contre, cet habitant plaide pour l'équité de la justice. Il y a aussi des innocents qui doivent être acquittés. Parmi les personnes arrêtées, il y a des innocents. Dans les pays développés, on devait les dédommager, puisque dénigrer comme cela n'est pas vraiment digne. Que le tribunal tranche avec justice, ceux qui peuvent sortir doivent sortir et que le fautif soit condamné. Malgré ces arrestations, indiquent certains Bandakais, les bandits redoutables continuent encore à opérer dans la ville. Bandaka, Porsche Malengue, la radio Okapi.
À Inga, dans le territoire de Sekebanza, au Congo central, beaucoup de personnes souffrent de la maladie appelée onchocercose ou la cécité de rivière à cause de la présence massive des insectes noirs nommés simuli. Jean Landou Songo, président de l'Union des ressortissants du territoire de Sekebanza, URESEC, qui tire la sonnette d'alarme, indique que le foisonnement de ces simuli se fait au niveau du canal qui amène l'eau du fleuve vers le barrage Inga. Et la cause, selon Jean Landou Songo, c'est l'insalubrité entretenue sur ce canal qui amène l'eau vers le barrage. À cet effet, le président de l'URESEC appelle les autorités du pays à prendre des dispositions pour tuer ces insectes. Nana Plurich Mambou signe ce reportage.
Le mouche simuli que les autochtones appellent abusivement maringouin transmettent à travers leur piqûre la maladie appelée onchocercose ou la cécité des rivières. Dans les territoires de Sekebanza, les simuli pullulent au niveau du barrage hydroélectrique d'Inga suite à l'insalubrité qui s'y trouve, a déclaré Jean Landou Songo de l'URESEC. D'après Dr Michel Kambou, coordonnateur provincial de la lutte contre l'onchocercose, à ces jours, Sekebanza dénombre 62 aveugles et 112 malades souffrant de la filariose lymphatique ou gonflement des jambes, à la suite de l'onchocercose et plusieurs ont des graves lésions cutanées. Jean Landoussongo de l'URSSEC a indiqué que les années antérieures, le bateau et les hélicoptères passaient de temps à autre vers le pourtour du barrage d'Inga pour la désinsectisation. Depuis belle lurette, ce travail ne se fait plus et les conséquences, elles, demeurent fâcheuses. Docteur Michel Kambou, coordonnateur provincial de la lutte contre l'onchocercose, affirme que, comme la désinsectisation ne se fait plus, sa structure a opté pour la distribution des médicaments pouvant éliminer les filaires qui transmettent les mouches en vue de briser la chaîne de transmission de l'onchocercose. Matadi, Nana Plurish Mambou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Alors que le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo est attendu en Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien a annoncé dans un communiqué publié mercredi 29 avril l'arrivée vendredi à l'aéroport d'Abidjan des six hauts cadres du parti en exil depuis 10 ans. Ce retour a été rendu possible par des négociations entre les gouvernements ivoiriens et ghanéens, chapeautées par le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. En effet, ces exilés vivaient au Canada et certains étaient poursuivis par la justice ivoirienne. Au Tchad, le CMT s'est exprimé pour la première fois sur les manifestations contre l'instauration d'un conseil militaire de transition dirigé par Mahamat Idriss Déby, un des fils du président tchadien, tué au front le 19 avril dernier. Des manifestations qui ont secoué la capitale et quelques villes de province mardi et mercredi.
L'invité.
Une dizaine de militaires et policiers congolais auteurs des violences sexuelles ont été condamnés le week-end dernier par le tribunal militaire garnison de Bukavu. Procès tenu en audience foraine à Walungu Centre avec le soutien du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme ainsi que l'Association des femmes juristes du Congo. Maître Néné Bintou Iragi, notre invité, a fait partie du collectif des avocats des victimes. Elle nous relate le déroulement de ce procès qui a duré 5 jours. Elle s'entretient avec Jean Kassami.
Bonjour madame.
Oui, bonjour monsieur les journalistes.
Vous revenez fraîchement de Walungu. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce procès qui vient de se clôturer là-bas?
C'est un procès qui s'est tenu à audience foraine à Walungu Centre par le tribunal militaire garnison de Bukavu. Et c'était au total 11 dossiers qui concernaient les présumés auteurs de violences sexuelles. Et parmi eux, il y avait des militaires et des policiers. Mais il y avait aussi un civil qui était poursuivi pour association de malfaiteurs pour des vols à main armée commis dans le groupement de Luago en chefferie de Ninja. Et l'audience était soutenue par le BCNIDH d'une part et d'autre part par l'Association des femmes juristes du Congo, AFEJICO, avec le partenariat qu'elle a avec Kivina Til Kivina. Et l'audience a duré 5 jours. Et moi, j'étais du côté des avocats des victimes et nous avons été globalement satisfaits du déroulement du procès. Nous avons fait le constat, c'est qu'il y a eu des condamnations des gens qui étaient poursuivis parce que les cas vraiment étaient flagrants, des mineurs de 3 à 5 ans, il y en a qui étaient poursuivis pour viol des mineurs de 12 ans, il y en a qui étaient poursuivis aussi pour avortement criminel après avoir commis les viols. Et pour nous, vraiment, c'était une satisfaction, même si c'est encore le premier degré, parce que les condamnés conservent encore le recours d'introduire les dossiers au niveau de la cour qui peut changer peut-être les décisions du premier degré. Mais globalement, nous avons été satisfaits de voir qu'il y a eu des condamnations. Et la population qui a suivi tout le déroulement du procès était aussi satisfaite de voir que quand même, il n'y a pas de gens qui soient au-dessus de la loi.
De ces 11 prévenus, combien ont été condamnés? Est-ce que les victimes aussi peuvent espérer à une certaine réparation?
Oui, il y avait plus de 11 prévenus parce qu'il y avait 11 dossiers, mais il y a un dossier où il y avait 2 prévenus, il y en a où il y avait 3 ou 4, il n'y avait que 2 acquittements. Et pour ceux qui étaient condamnés, ils ont été condamnés à réparer les préjudices commis sur les victimes en payant des frais, des dommages et intérêts. Mais la difficulté qu'on a, c'est que souvent c'est difficile de recouvrer ces frais-là. C'est pourquoi à chaque moment, le tribunal ordonnait à l'officier du ministère public de faire le suivi d'exécution de ces condamnations en retenant la moitié de la solde allouée aux militaires jusqu'à ce qu'on appire progressivement cette somme-là à laquelle les condamnés ont été condamnés à payer en termes de dommages et intérêts.
C'est que les militaires condamnés n'ont pas été radiés des FRDC?
Non, il n'y a pas eu ceux qui ont été radiés. Ils ont été condamnés à des peines, la plus grande peine c'était 20 ans et la moyenne c'était 15 ans de servitude pénale principale. Je n' ai pas suivi des cas de radiation de phare d'essai.
Et vous qui étiez du côté des victimes, êtes-vous satisfaite de cette manière de réparer les préjudices causés?
Non, justement, parce que c'est pour cela que vous voyez que les militaires d'abord sont sous-payés. Je crois qu'il y en a qui sont payés 200 000 par mois, je crois, d'autres 250 000. Bon. Et c'est souvent difficile de recouvrer cet argent, comme je venais de le dire, parce qu'ils ont été condamnés, je crois, la somme la moins retenue, c'était 5 000. Et donc, quand on condamne à 15 000, comprenez combien de fois ça va prendre si on doit soustraire la moitié chaque mois, des 200 000 ou des 100 000 francs congolais. Mais ce qui nous a réjouis, c'est que comme ils sont de préposés de l'État congolais, ils ont été condamnés in solidum avec l'État congolais qui les utilise. Donc, si les militaires sont incapables de payer, c'est l'État qui doit réparer cela. Et c'est pour cela que les organisations de la société civile ne cessent de plaider pour qu'il y ait un fonds national pour la réparation de ces victimes. Parce que la seule condamnation pénale à la prison ne suffit pas. Encore que vous savez comment nos prisons sont entretenues.
Je vous remercie beaucoup.
Moi aussi, je vous remercie.
Ainsi s'achève ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi.